Avec 1% de croissance au premier trimestre 2011, la plus forte accélération depuis le deuxième trimestre 2006, peut-on réellement parler de sortie de crise? La consommation se tient à plus 0,6% malgré l'inflation et le chômage élevé. Les entreprises réinvestissent et refont des stocks. Le signe qu'elles croient à un redémarrage, à moins que ce ne soit en prévision d'une hausse prochaine des taux d'intérêt, avec une nouvelle flambée des matières premières. L'austérité budgétaire n'en est qu'à ses débuts. Les dépenses et les achats publics qui, dans les régions, font les deux tiers de l'investissement, ne devraient pas accompagner la reprise de sitôt. Le Centre d'analyse stratégique a publié cette semaine un rapport prospectif sur la France de 2030. Les clés pour muscler notre économie, l'innovation, l'économie verte, l'investissement productif dans de nombreux secteurs comme la santé, l'éducation, le changement climatique avec l'apport des nouvelles technologies. Mais pour retrouver de la productivité, adapter le marché du travail aux mutations en jeu, la crise a-t-elle fait évoluer les stratégies des chefs d'entreprise? Pour en débattre, trois chefs d'entreprise qui font partie d'un collectif d'une dizaine qui se sont réunis pendant deux ans de crise pour réfléchir aux impacts économiques et sociaux. Il en ressort un livre paru chez Odile Jacob intitulé « Empreinte sociale » au pluriel, en finir avec le court terme. Responsabilité sociale, développement durable, innovation collaborative, tel est leur credo. Mais est-ce réellement ce qui est en train de se passer? Avec nous, Françoise Gris, PDG de Manpower, Pierre Kosciusko-Morizet, PDG de Price Minister, et Christian Nibourel, PDG d'Accenture. Madame, messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Carrefour de l'économie sur France Inter.
Françoise Gris, à la tête de Manpower, vous vous occupez principalement de l'intérim. Redémarrage de l'emploi ou pas?
Redémarrage de l'emploi confirmé. Du point de vue du travail temporaire, nous avions vu un redémarrage de la demande dès le printemps de l'année dernière. Ce qui est très positif dans les chiffres du premier trimestre, c'est deux choses. D'abord, la confirmation de cette tendance et une confirmation aussi de la visibilité des plannings de nos clients qui sont prêts à s'engager un peu plus loin que ce qu'ils ne le faisaient ces derniers mois. Et puis surtout, la reprise du recrutement permanent avec des clients qui à nouveau se lancent dans des recrutements de cadres en général ou de postes qualifiés.
Est-ce à dire réellement que les entreprises croient en demain?
Vous avez vu aussi les indicateurs de confiance, ils sont dans le vert. Donc je crois qu'on est clairement dans la bonne direction. On a aussi un phénomène conjoncturel. Les recrutements ont été bloqués pendant de nombreux mois et clairement les entreprises avaient besoin ou de combler un certain nombre de trous dans leurs organigrammes, dans leurs équipes ou de remplacer un certain nombre de personnes. Donc il y a un effet retard ou rattrapage. Mais je crois vraiment qu'on est dans la bonne direction.
Pierre Kosciusko-Morizet, vous êtes dans une entreprise d'internet, de commerce. Là aussi ça repart, vous recrutez, vous sentez que les choses avancent?
On recrute beaucoup. Là, il y a une étude récemment qui a démontré que l'impact de l'internet sur la création d'emplois en France était très forte depuis plusieurs années. Bon, et chez Price Minister spécifiquement, on va augmenter notre effectif de quasiment 40% cette année.
Avec des CDI?
On a quasiment que des CDI. Très marginalement, on a quelques stagiaires, mais en général c'est de la pré-embauche. Et on n'a pas de CDD parce que comme on croît chaque année, on préfère former les gens qu'on embauche et les garder après. En revanche, le côté croissance-consommation, donc vraiment les gens qui achètent sur Internet, la croissance est un petit peu plus faible en début de cette année qu'en début de l'année dernière. Il y a une forte croissance, elle reste entre 15 et 20%, donc ça va, hein. Mais l'année dernière, c'était plutôt 25%. Ça peut paraître paradoxal, mais on l'attribue notamment à la météo et au fait que le mois d'avril a été tellement beau et le mois de mars était déjà pas mal que les gens sortent plus et sont un peu moins devant leur ordinateur.
Christian Nibourel, vous à la tête d'Accenture, là aussi, reprise confirmée ou pas?
Oui, c'est une reprise de notre activité. Nous, on va recruter 1500 personnes cette année, donc on a retrouvé le niveau d'avant-crise.
CDI
en termes
aussi
de croissance, bien sûr, nous, ce ne sont que des CDI. Où on revient progressivement à notre niveau d'effectif, hein, qui était avant la crise, parce que la demande est là. Les entreprises investissent effectivement plus qu'elles n'investissaient en pleine période de crise pour se transformer et pour arriver à être plus productives sur leur marché et développer leur marché.
Françoise Gris, vous dites que pour avoir une croissance solide, il faut absolument que les chefs d'entreprise fassent l'effort sur le long terme de la formation, de l'évolution des métiers et de l'employabilité.
L'accès aux bons talents va faire la différence entre les entreprises. L'économie de demain, c'est une économie de service. Et par définition, une économie de service est fondée sur les talents, la capacité à développer des produits, des services et à les concrétiser sur le marché. Donc, on dépend des hommes et de leurs compétences. D'autre part, le monde s'est réorganisé avec des pays émergents qui vont absorber toute la demande et on va s'intéresser à des produits pour vendre dans ces pays, non plus uniquement produire. Donc, on a besoin de compétences différentes. différente. Donc ce qui va faire la différence, c'est vraiment d'avoir les talents qui vont permettre à l'entreprise de se développer, de se diversifier, d'aller dans les endroits où elle a besoin de se développer.
Mais lorsque vous dites talent, ça veut dire en fait que ceux qui n'ont aucune qualification sont complètement hors du système de la
reprise. Pas du tout. Ce que j'appelle un talent, c'est vraiment le profil, la compétence qui va, pour l'entreprise, être déterminante pour avoir une capacité de produire ou de développer. La personne qui est capable d'apporter un service en proximité, quand on est, par exemple, une entreprise qui va s'occuper de l'assistance à des personnes âgées, est un talent pour l'entreprise. Et c'est pas un profil qui est nécessairement si commun. Être capable de dire quels sont les talents qui vont faire la différence et être capable de les développer et de les garder sur du long terme, c'est à mon sens une stratégie gagnante dans l'environnement de l'après-crise.
Pierre Kosciusko-Morizet, un autre thème en débat aujourd'hui, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Un débat forcé par le gouvernement, bonne solution, pas bonne solution en sortie de crise.
Je trouve que c'est un très beau débat et que c'est nécessaire de le lancer. Alors on peut s'interroger sur le timing du lancement, le côté un peu opportuniste ou non. En tout cas, le débat, à mon avis, est essentiel. Je suis pas tellement d'accord avec la réponse. Le fait de dire qu'une entreprise qui augmente ses dividendes devrait ou non verser une prime en plus, ça revient à dire qu'une entreprise qui va bien augmente ses dividendes. C'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie d'une entreprise. Et donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est développer l'actionnariat salarié. Et comme ça, on se pose plus de questions parce qu'une entreprise qui verse des dividendes, elle en verse aussi à ses salariés puisqu'ils sont actionnaires. Et ça règle un peu tous les problèmes.
Tout ça, c'est bien lorsque la boîte marche. Vous avez vendu à des Japonais, vous avez fait une belle plus-value et les salariés ont eu le pactole à la sortie. En revanche, lorsqu'il y a des pertes, il vaudrait peut-être mieux une augmentation générale. Et les partenaires sociaux ne sont quand même pas tout à fait d'accord avec ça.
Alors le risque, effectivement, de l'actionnariat salarié, c'est que quand ça va mal, ça va vraiment mal. Parce que l'ambiance aussi, le moral des salariés l'est aussi. Après, ça dépend comment on s'organise. Moi, par exemple, j'ai jamais accepté l'idée que mes salariés doivent s'endetter pour acheter les actions de la boîte. Parce que je voulais pas prendre cette responsabilité-là et qu'ils puissent m'en vouloir en disant « bah là, le price ministère n'a pas marché comme on voulait, donc on s'est endetté, machin, faut qu'on envoie, etc. » Donc ça a été un don. On leur a fait un cadeau de stock options et donc ils ne pouvaient pas perdre. Bon, il se trouve qu'ils ont gagné, mais même au-delà de la dimension pécuniaire, là, il y a la dimension psychologique. Et je pense que avoir un bout de la société dans laquelle on va bosser tous les jours, c'est quelque chose qui compte énormément. Je suis vraiment extrêmement sensible à ça.
C'est ce qui fera la croissance de demain, d'après vous?
Disons que c'est un des éléments pour que ça se passe bien. Encore une fois, je vois pas d'autre manière de partager équitablement les fruits de la croissance d'une entreprise.
Christian Niborel, vous qui êtes à la tête d'une entreprise de 5000 salariés, vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire?
On ne peut pas avoir une réponse homogène parce que les entreprises sont différentes, les modèles économiques des entreprises sont différents et donc il faut avoir des approches sélectives mais appropriées à chacune des entreprises.
Pierre Kosciusko, comment allez-vous?
Une autre chose importante pour l'actionnariat salarié qui s'adapte pas à toutes les entreprises effectivement, mais c'est que ça donne du long terme puisque le salarié, il travaille plus pour la prime à la fin du mois ou du trimestre, il travaille en se disant je crée de la valeur pour mon entreprise et un jour j'en retirerai les bénéfices. Et je pense que c'est une des autres choses qui fait que c'est très sain. Et en plus, quand une entreprise donne des actions à ses salariés, elle n'obère pas sa capacité d'investissement. Alors qu'évidemment, quand on donne une prime, c'est de l'argent en moins qu'on peut investir.
Christian Niborel, on voit que l'investissement repart. Est-ce que ça suffit?
Qu'il faille de l'innovation, ça c'est une certitude. Après, l'innovation, elle peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être de l'innovation sur les produits, ça peut être aussi de l'innovation dans l'organisation du travail. Nous, par exemple, c'est venu effectivement, par exemple, de nos assistantes sur la partie télétravail, où maintenant on a plus de 50% de notre personnel qui travaille en télétravail chez nous sur la partie interne.
C'est la pression de la crise qui vous a donné toutes ces idées-là ou pas?
C'est l'ouverture d'esprit que l'on doit avoir pour mettre l'ensemble des salariés et l'ensemble de l'entreprise dans un climat d'innovation, j'allais dire dans un état d'esprit d'innovation permanent. Ça fait partie aussi de l'employabilité, de ce que décrit Françoise, mettre et donner à l'ensemble du personnel cette possibilité et cet état d'esprit de changement permanent, c'est un gage d'employabilité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.
Et vous dites qu'il faut regarder cette idée d'empreinte sociale, regarder autour de soi. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que les entreprises participent à un écosystème et que si l'écosystème de l'entreprise se porte pas bien, eh bien l'entreprise se porte pas bien. Donc l'empreinte sociale, c'est un peu regarder en interne et en externe l'impact de l'entreprise sur le social.
Est-ce que cette croissance aujourd'hui, cette reprise est différente?
Moi, je suis d'accord avec ce que disait François tout à l'heure. La reprise, c'est une reprise qui, j'allais dire technique, là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un véritable changement dans la réflexion des chefs d'entreprise? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans le domaine de l'empreinte sociale, les gens travaillaient plutôt en silo. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut avoir une vision plus globale du social et que c'est en travaillant sur cette notion d'empreinte, comme on a une empreinte économique, comme on a une empreinte environnementale, et que c'est ce triptyque et la synergie de ces trois empreintes qui fait que les entreprises pourront se développer et pourront avoir des rentabilités profitables, j'allais dire, sur le long terme.
Par exemple, l'histoire du TGV.
C'est de dire, lorsqu'il y a un appel d'offres autour du TGV, on peut caractériser cet appel d'offres autour de trois empreintes. L'empreinte économique, puisque là, on va voir qu'on va faire déplacer, effectivement, il y a un intérêt économique dans une région. Il y a une empreinte environnementale, parce qu'il va falloir, effectivement, à un moment donné, prendre en compte l'impact impact de la ligne TGV sur l'environnement, puis il y a un impact social. Parce que quand on crée une ligne TGV, à un moment donné, à un instant T, on va créer de l'emploi. On sait que cette ligne, elle va durer 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces emplois dans 3 ans?
Françoise Grey, on a l'impression que vous avez tous constaté pendant cette crise la bêtise du court-termisme. Mais en même temps, quand cette sortie de crise, on a vraiment l'impression que ça repart comme avant.
Nous étions chacun dans notre entreprise en train de raisonner autrement qu'en court terme. Et ce que nous voulions dire d'abord, c'est qu'il était possible, contrairement à ce que tout le monde pensait, de conjuguer à la fois des objectifs de performance immédiats et des objectifs de performance collectifs à plus moyen terme. Donc on a voulu s'exprimer sur ce sujet-là et puis ouvrir un certain nombre de pistes sur comment le faire mieux, le faire plus largement. Et alors, est-ce que le monde a totalement changé? Sûrement pas, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'ingrédients, et c'est pour ça qu'il faut prendre la parole, qui sont dans l'environnement et sur lesquels il faut capitaliser, qui sont de nature à modifier la vision, en tous les cas, de la société sur l'entreprise.
Pierre Kosciusko-Morizet, maintenant que vous avez des actionnaires japonais, vous sentez que les actionnaires, ils vont vous laisser le temps d'avoir une vision de long terme et sociale au sein de l'entreprise ou non?
J'ai eu la chance de pouvoir choisir mes actionnaires, donc j'ai choisi des actionnaires qui avaient cette vision-là. D'ailleurs, on s'est engagé à rester 5 ans au sein de Price Ministers, ce qui est assez rare après une vente. Et surtout, on a la chance d'avoir un cas très particulier où le dirigeant du groupe Rakuten, qui nous a racheté, est le fondateur et il a la moitié de la boîte. Et comme la boîte vaut 10 milliards de dollars en bourse, il n'est plus là pour l'argent, il en a assez, il a fait ce constat et donc il est là pour changer le monde. Et on ne change pas le monde sur le court terme. Et c'est vachement important. C'est-à-dire que nous, on a regardé les partenaires potentiels et on a voulu un partenaire qui avait cette vision long terme. On avait vraiment peur d'une chose, c'est qu'on nous demande nos chiffres au mois le mois et que si un mois le groupe est en dessous de ces machins, bah il faut virer 3 personnes, arrêter tel truc marketing. On avait peur de ça. C'est quand on est entrepreneur, on a la chance d'avoir cette vision long terme. On peut se le permettre, c'est un luxe et on voulait garder ce luxe et pour le moment on l'a gardé. C'était important.
Christian Niborel, vous, votre entreprise Accenture, le siège social est à Dublin. Il y a aussi une stratégie économique de l'entreprise à être un peu partout, là où l'impôt sur les sociétés est peut-être le moins cher. Vous pensez réellement qu'en cette sortie de crise, l'idée de l'empreinte sociale est quelque chose de vrai, de fondamental, de réaliste ou pas?
Oui, c'est réaliste parce qu'on est parti du principe que s'il n'y avait pas une empreinte sociale positive, il n'y aurait pas de pérennité de l'entreprise. C'est encore une fois, c'est une conviction.
Vous y croyez vraiment?
On y croit, oui, parce qu'on y croit sur le long terme, oui, absolument. Je crois qu'effectivement, il y a, et c'est ce que disait Françoise, il y a une tendance à cette réflexion long terme. Il y a de plus en plus d'approches et d'analyses sur le long terme. À nous maintenant de le concrétiser et de faire que ça arrive dans les entreprises. Mais le fait qu'on débatte aujourd'hui sur ce sujet est déjà un signe positif.
Mais est-ce que c'est pas une réflexion très franco-française? À la limite, chez les Allemands, ils le font. La cogestion, le débat. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans notre petit coin?
On est peut-être un peu en retard par rapport aux Allemands, mais l'essentiel, c'est cette prise de conscience et puis cette dynamique que l'on va créer pour travailler sur ces sujets.
Pierre Kosciusko-Morizet,
je voulais juste réagir à ce que vous disiez. Si tous les patrons étaient conscients de ça, on n'aurait pas créé le collectif, ça aurait servi à rien. Là, l'idée, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de patrons qui sont conscients de ça, mais pas encore assez, donc on a envie de porter cette voix et de les convaincre d'une certaine manière.
Françoise Grey.
Et c'est vraiment sur ces sujets de la frontière de l'entreprise avec la collectivité, avec la société, que les sujets se passent. Donc il faut à la fois structurer ces frottements, ces empreintes, et puis en parler, parce que je pense que ce qui différencie la France des autres pays, c'est quand même beaucoup de cynisme et beaucoup de doutes sur tous ces sujets-là.
Mesdames, messieurs, je vous remercie et à samedi prochain.
C'est la fin de 7 heures d'économie sur France Inter. Merci à Karine.